Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mardi 30 août 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Pleinement sanctionné, l'Iran signe des accords avec Russie, Venezuela, Nigeria, trois géants pétro-gaziers. Pourquoi ? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, rencontre du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, avec le président Raïsi et des membres du cabinet. Le président iranien participe au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et puis la reconstruction et le renforcement des relations de l'Arabie saoudite avec l'Iran sont bénéfiques pour la sécurité de la région, insiste le président Raïsi. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Rencontre du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, ce mardi, avec le président Raïsi et des membres du cabinet. Le président et les membres du 13e gouvernement ont rencontré le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, dans le Hosseinié de l'imam Khomeini de Téhéran. À l'occasion de l'anniversaire de la mort en martyr de l'ex-président iranien Rajaï et l'ex-premier ministre Bahonar en 1981, et à l'occasion de la semaine du gouvernement, le président et les membres du 13e gouvernement ont rencontré l'Ayatollah Khamenei à Hosseinié de l'imam Khomeini de Téhéran. Le président iranien participe au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Le coordinateur national de l'Ouzbékistan dans les affaires de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dont le pays est censé accueillir le sommet des États membres de cette importante organisation régionale dans les jours à venir, ce mois, a annoncé que le président de la République islamique d'Iran est sur le point de rejoindre les principaux membres de cette organisation participeront à cette réunion. Le président iranien participera au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, annonce le coordinateur national de l'Ouzbékistan dans les affaires de l'OCS. Lors d'une séance d'information liée au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, organisée par le ministère des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan, Rahmatullah Nouri Mombotov, le coordinateur national de l'Ouzbékistan pour l'OCS, a déclaré que les chefs de tous les membres ainsi que les chefs des pays observateurs, dont la République islamique d'Iran, la Biélorussie et la Mongolie, participeront également à la réunion qui doit se tenir les 15 et 16 septembre dans la ville de Samarkand, en Ouzbékistan. Seyyed Ebrahim Raïsi, président de la République islamique, s'exprimant lundi lors d'une conférence de presse en réponse à une question concernant l'adhésion à part entière de l'Iran à l'organisation et ses conséquences sur le développement des relations entre la République islamique d'Iran et la Chine et d'autres pays, a déclaré: notre présence au sein de l'OCS et notre coopération avec les pays membres de Shanghai sont très importantes et nous relient à l'Asie et ses infrastructures économiques, et il est très important pour notre pays de pouvoir apporter sa part au commerce et à l'économie de la région. Iran bientôt un decision maker à l'échelle mondiale. La participation à l'Organisation de coopération de Shanghai et au BRICS, plus fait de l'Iran un partenaire dans la prise de décision internationale en matière de politique, de sécurité et d'économie, a déclaré l'adjoint politique du ministère iranien des Affaires étrangères. Ali Boreri, adjoint politique du ministère iranien des Affaires étrangères, et Kenneth Noberga, vice-ministre brésilien des Affaires étrangères dans les affaires du Moyen-Orient, de l'Europe et de l'Afrique, se sont rencontrés à Téhéran dans le cadre du 11e cycle de consultations politiques entre les deux pays et ont discuté des questions d'intérêt bilatéral, régional et international. Se référant aux évolutions internationales, y compris la guerre en Europe, l'adjoint politique du ministère iranien des Affaires étrangères, tout en soulignant l'opposition de l'Iran à la guerre, a déclaré: l'unilatéralisme a perdu le champ de l'initiative et maintenant le monde est multilatéraliste, ce qui peut répondre aux conditions et exigences du nouvel ordre mondial. Soulignant la force, le dynamisme de la puissance iranienne, Borrelli a déclaré « La présence de l'Iran dans l'unité politique et sécuritaire de l'Organisation de coopération de Shanghai et le rôle de l'Iran dans le mécanisme économique BRICS+, font de l'Iran un partenaire dans la prise de décisions internationales dans les domaines politiques, sécuritaires et économiques. » Cela a considérablement amélioré la position du front du multilatéralisme dans les équations internationales, s'est-il félicité. L'adjoint politique du ministère des Affaires étrangères a souligné qu'à partir de maintenant, les relations iraniennes avec les parties du multilatéralisme mondial ne se limiteraient plus aux relations bilatérales. Selon ce diplomate iranien, les relations de l'Iran avec le Brésil sont définies en termes de responsabilité, de rôle et de position de ces deux pays dans le nouvel ordre issu du multilatéralisme. L'unilatéralisme essaie de façonner les relations mondiales en fonction de ses propres intérêts. Sur cette base, Washington utilise les sanctions comme un outil pour dessiner l'atlas de l'économie, de la politique et de la sécurité internationale en termes de maximisation de ses propres profits et de ceux de ses alliés. Le front du multilatéralisme doit gérer la transition de l'ordre oppressif de l'unilatéralisme à l'ordre juste du multilatéralisme en créant, en renforçant des institutions financières et économiques et en gérant intelligemment les mécanismes politiques et culturels, a-t-il ponctué. Sachez d'autre part que la reconstruction et le renforcement des relations de l'Arabie saoudite avec l'Iran sont bénéfiques pour la sécurité de la région, selon les déclarations du président Raïsi. Le président Raïsi a décrit les initiatives et les mesures de l'Irak visant à améliorer l'environnement de coopération entre les pays de la région sans ingérence étrangère comme étant efficaces pour renforcer l'intégration régionale et a déclaré « La reconstruction et le renforcement des relations de l'Arabie saoudite avec l'Iran sont dans l'intérêt de la sécurité de la région. » S'exprimant lors d'une réunion avec Fouad Hussein, ministre des Affaires étrangères irakien, lundi soir à Téhéran, le président Raïsi a déclaré que la sécurité et la stabilité en Irak ne peuvent être établies que par le dialogue entre tous les courants politiques du pays sur la base de la Constitution et afin de parvenir à un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement pour résoudre les problèmes de la nation irakienne, soulignant que les autorités religieuses jouent un rôle très important à cet égard. Le président a apprécié les consultations du gouvernement irakien sur les affaires régionales et a ajouté « Les initiatives et mesures de l'Irak visant à améliorer l'atmosphère de coopération entre les pays de la région sans ingérence étrangère seront efficaces pour renforcer l'intégration régionale. » Sachez également que le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a également rencontré lundi son homologue irakien Fouad Hussein. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et irakiens ont discuté lors d'une réunion à Téhéran des derniers développements dans la région et dans le monde. Amir Abdollahian, se déclarant satisfait du niveau des relations bilatérales, a appelé à la mise en œuvre des accords existants entre les deux pays et a appelé au développement des relations commerciales et économiques et à la réalisation de l'utilisation des grandes capacités dans le cadre de la coopération entre les deux pays comme des priorités importantes à cet égard. Fouad Hussein, à son tour, lors de cette réunion, a qualifié les relations entre les deux pays d'importantes et a exprimé sa gratitude pour la vision responsable de l'Iran sur les événements en Irak. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Pleinement sanctionné, l'Iran signe des accords avec Russie, Venezuela, Nigeria, trois géants pétrogaziers. Pourquoi ? Il y a des signes qui ne trompent pas. Accord énergétique de 20 ans Iran-Venezuela, accord gazier à long terme Iran-Russie, accord pétro-gazier à longue échéance Iran-Nigeria, Kofi au juste l'Iran, le producteur pétrolier le plus longuement sanctionné de l'histoire. Inverser la tendance et le faire en se rapprochant aux quatre coins du monde des méga-producteurs pétroliers et gaziers, de façon à créer un noyau propre à fausser le jeu US-OTAN à l'échelle d'une OPEP qui n'a jamais été autre chose, et ce, jusqu'à très récemment qu'une boîte à outils énergétique au service du dollar. Et mine de rien, ce collectif énergétique très hétérogène, dont chaque membre est énergétiquement le plus gros producteur de son continent, n'aime pas le dollar. En Russie, c'est le rouble qui efface le billet vert. Au Nigeria, c'est le Naira que le chasse. Quant à l'Iran et le Venezuela, les deux parties troquent en or et se moquent du pétrodollar. Que risque de sortir de tout ceci? Ce qui bloque l'Amérique au niveau des négociations à Vienne et lui fait dire non à ses alliés européens fut saut au prix de les voir complètement frisés pendant l'hiver. Les États-Unis ont peur d'un monopole gazier irano-russe qui possède à eux deux la majeure partie des réserves gazières du monde, mais aussi des monopoles gazopétroliers irano-vénézuéliens et irano-nigériens en Amérique latine et en Afrique. Enfin, le monopole, c'est terme propre aux Yankees qui se traduit ainsi. L'Amérique a peur que le pétrodollar meure et l'énergie lui échappe pour de bon. La Russie et l'Iran peuvent prendre le contrôle de l'ensemble du marché mondial du gaz si leur coopération bilatérale se développe, affirme la presse américaine. En effet, la contribution de l'Iran dans les raffineries extra-régionales est aussi importante que l'investissement dans des champs communs avec des voisins pour l'extraction de pétrole. Parallèlement à l'extraction du pétrole, des meilleurs marchés sont recherchés pour offrir l'or noir aux demandeurs. C'est dans ce contexte que l'Occident a tiré la sonnette d'alarme sur un accord de 40 milliards de dollars signant Gazprom et la Compagnie nationale iranienne du pétrole fin juillet. Le mémorandum signé prévoit le développement conjoint de plusieurs gisements d'hydrocarbures dans le pays du Moyen-Orient. En outre, Moscou et Téhéran ont convenu de coopérer pour la mise en œuvre de projets de construction de gazoducs, de l'exportation et de liquéfaction du gaz naturel. De leur côté, les États-Unis estiment que cette étape franchie par les deux pays est la base de la création dans un avenir prévisible d'un cartel mondial du gaz qui peut devenir une sorte d'analogue de l'OPEP et influencer les prix mondiaux.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le Mali, un pays africain qui s'était débarrassé des forces françaises, des forces qui avaient pillé la richesse de ce pays pendant presque 9 ans, affaiblissant économiquement et militairement ce pays, a décidé donc de diversifier ses partenaires afin de profiter lui-même de sa richesse. Bon, depuis que la Russie s'est rapprochée du Mali, bien sûr, la stabilité et la sécurité relative est revenue à ce pays-là. Et justement, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu au Mali pour développer les relations bilatérales dans différents domaines et surtout militaires. À présent, j'ai le plaisir de vous présenter notre premier invité. Il s'agit de M. André Chamy, juriste international et expert des questions internationales qui est avec nous depuis l'Alsace. M. André Chamy, bonjour.
Parfaitement, bonjour.
Voilà.
Bonjour à vous, à votre équipe et à votre invité.
Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Donc, Maître André Chamy, juriste international depuis l'Alsace. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, nous parlons de l'Afrique, mais particulièrement du Mali et pourquoi pas de la RDC, du Centrafrique ou bien du Niger ou Burkina Faso, qui ont décidé de se débarrasser des forces étrangères et de permettre donc à certains pays, dont la Russie et l'Iran, de se rapprocher à ce pays-là afin de profiter un maximum de leurs propres richesses. Que pensez-vous ?
Écoutez, en réalité, l'Afrique, en tant que continent, est en pleine mutation parce qu'en réalité, les Africains ont décidé de prendre leur avenir en main, puis à ce moment-là, rechercher à défendre leurs propres intérêts, puisque jusqu'à maintenant, leurs intérêts étaient plutôt dominés par des puissances étrangères, et notamment ce qu'on appelle la période postcoloniale, par les anciennes forces coloniales, la France là où il y avait la France, l'Angleterre où il y avait l'Angleterre, les États-Unis ont pris leur part également et ont essayé même d'augmenter leur puissance avec l'échec notamment des opérations en Somalie et dans d'autres pays africains. Le Soudan n'est pas resté à l'écart, puisque on sent la volonté de déstabiliser cette région-là. Et comme on n'arrive pas à dominer, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on utilise toujours les mêmes moyens, hein. C'est-à-dire ce qu'on appelle les mouvements terroristes. Alors, on envoie Al-Qaïda, Daesh, et depuis pratiquement 10 ans, on constate une augmentation de la présence de ces forces. Et paradoxalement, ces forces ne se propagent que dans les zones où les forces coloniales avaient du mal à s'aventurer. Parce que, évidemment, les locaux ne voulaient plus de leur présence et voulaient tout simplement avoir leur indépendance parce que leur présence était gênante et surtout priver ces gens-là, ces populations, de leurs moyens d'existence et surtout de leurs moyens de se développer. Et le moyen qui a été trouvé, c'était d'avoir l'usage comme d'habitude, comme ça a été utilisé en Syrie, mais dans d'autres pays, en Irak et en Afrique du Nord. Nous nous rappelons tous de la période FIS en Algérie. C'est toujours le même moyen, utiliser toujours ces forces qu'on considère comme terroristes. Et derrière, bien entendu, ça justifie l'intervention étrangère. Là, le Niger, le Mali, le Centrafrique sont toujours dans la même perspective. Pour les priver des moyens, à ce moment-là, on envoie les soldats français ou on envoie d'autres puissances sous une forme ou une autre pour dominer. Maintenant, la blague a du mal à passer. C'est la raison pour laquelle il y a eu des moyens pour repousser en quelque sorte les forces coloniales dans leur dernier retranchement, ce qui a poussé la France, suite à une décision malienne par exemple, de se retirer de ce pays-là et se replier par exemple au Niger. Mais est-ce que les forces françaises vont rester au Niger et même au Burkina Faso et même dans d'autres pays africains ? Moi, j'aurais des doutes par rapport à cela. Évidemment, vous ne pouvez pas revendiquer une indépendance sans avoir une indépendance militaire, mais une indépendance économique, une indépendance par rapport à l'exploitation de vos minerais, de vos ressources. Et l'Afrique est dans cette voie-là. Surtout qu'ils ont vu d'autres pays, par exemple l'Éthiopie, qui a commencé à se débarrasser, si j'ose dire, de toutes ces forces-là. Et je me rappellerai toujours de l'action symbolique du ministre des Finances éthiopienne quand il a versé le dernier chèque à la Banque mondiale en disant « Regardez voir, voilà, je vous ai remboursé, maintenant je ne vous dois plus rien ». Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que dans les années 80, on disait que l'Éthiopie était au bord de la mort et maintenant on voit que l'Éthiopie a pu s'en sortir, a pu se débarrasser même de ses propres créanciers. Nous sommes donc dans une voie qui est ouverte à l'Afrique. Et l'Afrique est un continent qui a des capacités, qui a des moyens, qui a des ressources et qui a une perspective à venir. Pour moi, l'Afrique a toujours constitué ce que j'appellerais le poumon du monde. Et à partir du moment où vous privez le monde entier, pour ne pas dire toute la Terre, de ce poumon-là, c'est la Terre qui souffre. Maintenant, l'Afrique va reprendre s'en sort au moins. Et c'est la raison pour laquelle elle a choisi d'avoir recours à d'autres puissances. La Russie et de retour, puisque la Russie avait une existence dans ces pays-là. Et elle en a été privée après la chute du mur de Berlin et la disparition de l'Union soviétique. Maintenant, il y a un retour en force. Alors, c'est vrai que ça se fait de manière graduée. Mais ce retour-là est clair. Alors, on reproche à la Russie d'utiliser ce qu'on appelle les milices Wagner. Qu'on utilise les milices Wagner ou autres, pour moi, ça ne change rien parce qu'il faut se débarrasser des forces coloniales, il faut débarrasser de ces pays-là et également des forces nuisibles. Parce que la présence, par exemple, des forces comme Al-Qaïda ou Al-Qaïda pour l'Afrique ou du Maghreb, etc., c'est une nécessité aussi pour que la population puisse respirer et puisse retrouver sa liberté. Mais derrière ça, il faut libérer l'économie. Mais derrière également la Russie, il y a également d'autres pays, dont l'Iran. L'Iran a également son rôle parce que je me rappellerai du Soudan où on a frappé des usines au Soudan en disant que c'est là où il y a eu des usines qui ont été construites par les Iraniens pour aider in fine les Palestiniens, en tout cas le Hamas et les djihadistes islamiques. Là également, c'était un pied-à-terre, si j'ose dire, où les Iraniens commençaient à montrer qu'ils peuvent exister. Est-ce qu'il y avait des usines d'armement ou pas? J'ignore, mais de toute façon, on s'en moque. La question est de savoir, est-ce que l'Iran est de retour en Afrique? La réponse est oui. Et il y a maintenant un certain nombre de pays africains, et moi j'ai pu assister à des réunions où la présence africaine était imposante, parce qu'il y a des intérêts en commun à réaliser, et puis il y a également ce qu'on appelle l'esprit du guide de la révolution, c'est-à-dire donner la liberté au peuple afin qu'ils puissent décider de leur propre sort et afin de pouvoir décider de leur avenir. Et cette idée-là a pris son chemin et s'est imposée dans les pays africains. Et aujourd'hui, évidemment, l'Iran est devenu en quelque sorte un symbole pour nombre de pays dans le monde, pas simplement en Afrique, mais en Afrique en particulier. Parce que quand vous passez du seuil, ou même en dessous du seuil de la misère, à la capacité de vous financer et de vous faire redresser et de remonter pour devenir parmi les pays qui comptent dans le monde, ce n'est pas négligeable. Et l'Afrique est dans cette voie-là. Les pays africains que vous avez cités, mais il y en a d'autres qui sont également dans cette voie-là, on constate effectivement que même les pays qui étaient considérés comme des pays franco-français sont en train de basculer. D'ailleurs, la dernière visite qu'a eue Emmanuel Macron en Afrique a été marquée par une scène où il a tapoté le dos d'un responsable africain et il a secoué l'emplacement de la main. C'est comme s'il était souillé ou il avait reçu une poussière. C'était quelque chose de symbolique pour démontrer une forme de dégoût. Je n'irai pas jusqu'à cet excès-là, mais c'est une démonstration que vous ne tapotez plus sur nos épaules comme vous faisiez par le passé de manière paternaliste en disant « je gère tout pour vous, vous n'avez rien à faire ». Non, vous n'avez pas à nous toucher, vous n'avez pas à prendre vos désirs pour des réalités. Nous sommes là chez nous et nous pouvons donc décider de notre avenir et de notre sort. Ça, c'est un symbole, mais également un mot qui a été dit par un certain nombre de pays africains. Et l'Iran aura sa place pour aider ces pays dans tous les sens, y compris dans le sens militaire, mais également dans les échanges économiques qui ne sont pas négligeables et qui sont amenés à se développer. C'est ce qui explique d'ailleurs que les exportations iraniennes ont augmenté parce que l'Iran ne se contente plus des pays qui ne faisaient pas appel à la République islamique d'Iran, mais s'ouvre des marchés. Et en Afrique, ça fait partie de ces marchés-là qui sont à potentiel important, mais il suffit d'augmenter les échanges et avec respect et surtout avec responsabilité.
Maître André Chamy, il faut quand même ajouter à ce que vous avez dit que les forces françaises, entre autres, ont tout fait pour affaiblir économiquement et militairement donc, le Mali, par exemple, alors que depuis la présence russe, par exemple, j'ai vu dans un reportage que en 2 mois, l'aide russe au Mali a permis donc de tuer plus de terroristes que les Français ont tué pendant 9 ans. Donc, ils ont apporté une stabilité, une sécurité relative à ce pays-là. Et donc, l'Iran a le même objectif. Que pensez-vous?
Mais également, il y a une occupation du terrain qui est beaucoup plus importante, c'est-à-dire non seulement il y a, il y a une liquidation d'un nombre important de terroristes, mais il y a une occupation du terrain qui est devenue beaucoup plus importante et qui est amenée à se développer parce qu'il y a un ciblage, il y a un travail de renseignement avec peu de moyens, certes, mais des moyens efficaces parce que la volonté réelle, c'est de se débarrasser et non pas de ces terroristes et non pas pour jeter de la poudre aux yeux pour justement justifier une présence militaire non désirée. C'est ça la réalité, la France n'a plus sa place en Afrique, la France n'est plus un pays colonial, il doit donc changer de logiciel et penser à autre chose, c'est-à-dire penser à une véritable coopération, si vraiment coopération il y a, mais l'ancienne idéologie qui croit tout permis dans ces pays africains est révolue et les Africains ne le supportent plus.
Monsieur Madedine Hambruni, vous êtes expert des questions internationales. Bonjour et merci d'être avec nous depuis Paris. Et donc, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Alors, vous avez certainement entendu les propos de Maître Chami, donc, qui disait qu'enfin, certains pays africains ont pu se débarrasser des forces étrangères et préfèrent de diversifier leurs partenaires, donc particulièrement, bien sûr, la Russie et bien sûr l'Iran. Que pensez-vous?
D'abord, je salue votre invité, Maître Chami, en Alsace, et je vous salue, toute l'équipe. Vous savez, on parle d'une relation entre l'Afrique et de l'Iran, entre l'Afrique et la révolution islamique, depuis quatre décennies. Il faut rappeler que les peuples d'Afrique, ce sont les premiers peuples qui ont soutenu la révolution islamique en Iran. Et ces peuples-là, que ce soit des peuples musulmans ou non musulmans, par exemple le Sénégal, par exemple l'Afrique du Sud, et bien d'autres, le Cameroun. Donc c'est des populations qui, dès le départ de la révolution islamique, ils ont soutenu le peuple iranien. Donc il y a là une relation, si vous voulez, géopolitique entre peuples. Deuxièmement, l'Iran, les gouvernements iraniens successifs, ils ont essayé d'amener de l'aide à certains pays africains. Il y a de l'expérience, mais aussi, malheureusement, l'ère de M. Rouhani, on a vu l'absence de l'Iran dans l'Afrique. Donc, il faut noter ça. Donc, la volonté politique iranienne, il faut qu'elle se dessine d'une manière sérieuse pour aider, si vous voulez, le développement de l'Afrique. Car aujourd'hui, on constate, par exemple, depuis ce qu'on appelle le printemps arabe, que l'élite africaine, elle est très, très développée par rapport à l'élite arabe. C'est-à-dire, c'est une élite indépendantiste, c'est une élite qui résiste, si vous voulez, à toutes les ingérences internationales, surtout l'ingérence américaine et bien d'autres occidentales. On a vu l'intérêt de la Chine populaire pour l'Afrique. La Chine investit énormément, et c'est pour cette raison les Américains, ils envoient les Japonais pour essayer un petit peu de faire l'équilibre entre Chinois et Américains, mais aussi la présence de la Russie, même si elle est encore timide. Donc le retour de l'Iran vers l'Afrique par le Mali et par d'autres pays comme le Kenya et bien d'autres pays africains, il faut le saluer, il faut saluer la volonté du président Raisi.
Hambruni, excusez-moi de vous interrompre. Bien sûr, ma question va s'adresser à vous encore. Bien sûr, l'Occident, les ingérences étrangères, voient d'un très mauvais œil cette présence russe et même iranienne dans les pays africains, dont le Mali. Pourquoi les Occidentaux ne sont pas contents de cette présence?
C'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas contents, comme le maître Chami l'a bien précisé tout à l'heure. C'est-à-dire l'Afrique, c'est la base arrière de l'Occident, de l'Europe. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, rien que le robinet de gaz russe est arrêté, et on voit que M. Macron nous dit, nous, ici, citoyens français, écoutez, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, comme si aujourd'hui la France, on voit que ce n'est pas une grande puissance. Donc, on voit que M. Macron, il s'intéresse encore une fois à l'Algérie, au gaz algérien. Sa visite de 3 jours en Algérie nous montre l'inquiétude de l'Occident par rapport à ce qui se passe en Afrique. Donc les peuples africains veulent, je ne dis pas se débarrasser, de la colonisation, mais ils veulent leur indépendance, ils veulent créer leur développement technologique. Et c'est ça qui est intéressant de souligner la différence entre la présence russe et la présence iranienne. Et le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop, malien, l'a bien précisé en disant que la différence entre la coopération avec l'Iran et avec d'autres pays, c'est que l'Iran ne veut pas servir que ses intérêts propres. L'Iran cherche à servir l'Afrique, cherche à servir les peuples africains, les peuples opprimés d'Afrique.
Et surtout, que l'Iran ou la Russie ne profitent pas des prétextes tels que la lutte contre le terrorisme pour tuer des innocents maliens pour justement être présents. Mais est-ce que, Maître André Chami, est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de M. Madedine Ambrouni?
Écoutez, aujourd'hui, je le répète, l'Afrique est sur une sorte de croisée de chemin. L'Afrique a décidé dans sa globalité pratiquement, parce que tous les pays africains ont compris, il y a une élite africaine aujourd'hui qui a été toujours accusée par l'Occident d'être corrompue, etc. Alors qu'en réalité, les Occidentaux s'accommodaient bien des corrompus parce que ça leur permettait d'avoir la main mise sur les ressources de ces pays-là. Sauf que ces régimes disparaissent au fur et à mesure parce qu'il y a un phénomène d'émancipation, il y a un phénomène de remontée de la population civile vers le pouvoir et bien entendu cet accès donne un esprit de liberté à ces pays-là et surtout, on constate qu'en 70 ans, 80 ans, il n'y a pas eu un véritable développement intérieur et grâce aux forces occidentales, s'il y a eu des développements, c'est en raison justement des ressources. C'est-à-dire, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont pu le faire. La seule chose qui s'est passée à l'encontre des Africains, c'était le pillage de leurs ressources, c'était le pillage de leurs moyens, c'était la domination politique, les manigances politiques à travers les coups d'État à répétition, l'envoi des mercenaires, notamment dans les années 60, au prétexte de lutter contre le communisme en Afrique, la chute des régimes qui aspiraient à des libertés, à se débarrasser des forces coloniales, comme ce qui s'est passé par exemple au Burkina Faso, déjà à l'époque de Sankara. C'est-à-dire, ce sont des choses qui sont relativement anciennes et qui ont permis aux Africains de voir de près ceux dont les Occidentaux étaient capables contre eux. Maintenant, il y a une volonté, il y a une élite, il y a un esprit de liberté et il y a des partenaires. Par conséquent, les Africains ont compris, dans leur majorité, mais en tout cas, il y a un conseil de ces pays-là, mais il y a également chaque pays qui
tout
décide. Et la décision du Mali est une décision remarquable par rapport à cela, notamment le recours à la Russie et le recours à l'Iran.
Absolument.
Mais quand vous prenez dans la globalité, oui, il y a une volonté de ce que j'appellerais l'axe de la résistance, c'est-à-dire la Chine, l'Iran et la Russie, d'investir militairement, sécuritairement, économiquement dans ces pays-là afin qu'il y ait une sorte de synergie d'ensemble pour que l'Afrique devienne également un partenaire supplémentaire dans la lutte contre l'impérialisme, c'est comme ça que moi je l'appelle, et cette lutte contre l'impérialisme permettra d'avoir dans les prochaines années un monde meilleur et un monde nouveau.
Absolument. Eh bien, Maître André Chami, un dernier mot pour terminer, je vous prie.
À moi ou à M. Amran?
À Maître Chami, à vous, s'il vous plaît.
D'accord, oui, d'accord. Alors, aujourd'hui, effectivement, les Africains sont décidés, me semble-t-il, à aller jusqu'au bout. Il y a eu des développements dans beaucoup de pays africains. On a vu, maintenant, aujourd'hui, à Addis Abeba, par exemple, on constate qu'il y a une évolution extraordinaire. Dans d'autres pays africains, notamment au Ghana, au Kenya, etc., il y a des développements, que ce soit dans l'Afrique francophone ou dans l'Afrique anglophone. Il y a une volonté de se développer et ce développement va avancer. Et il y a une sorte d'entraide qui va également se créer entre les pays africains pour permettre une sorte de plan d'ensemble parce qu'il y a de la richesse, il y a des moyens, il y a des compétences, il y a une élite. Et l'important, c'est de se débarrasser de ceux qui ont voulu dominer ces pays-là et qui ont voulu coloniser, qui ont voulu voler.
Absolument.
C'est le bon terme, si je veux dire.
Tout à fait.
En créant des risques intérieurs qui ne sont pas nécessairement inhérents à ces pays-là, notamment ce qu'on appelle l'extrémisme musulman ou le terrorisme lié aux organisations qui ont été, moi je dirais, montées de toutes pièces par les anciennes forces coloniales et notamment par les Américains, parce que cette espèce de propagation. Je prends l'exemple toujours du fils qui a démoli le système sécuritaire à un moment donné en Algérie. Il a fallu une remontée, mais à l'époque, ça avait permis aux Américains de s'y implanter et d'installer l'une de leurs plus grandes bases en Afrique du Nord, absolument, en Algérie. C'est toujours comme par hasard. On crée le risque, puis on dit « je viens pour vous aider pour lutter contre ce risque-là ». Or, maintenant, les Africains ne sont pas idiots, ils ont compris ce manège-là, et ils sont en train de lutter contre en s'appuyant sur d'autres forces. Et il y a une sorte de retour du passé, parce que dans les années 50, il y avait la présence soviétique. C'est vrai que la présence soviétique était en quelque sorte le pendant de la présence américaine ou coloniale. Maintenant, la présence russe a d'abord une autre connotation, parce qu'il n'y a pas de connotation idéologique, il n'y a tout pas de fait. Propagation oui. du communisme, mais il y a également une volonté de libérer les peuples afin qu'ils puissent se sortir absolument. De la joute des Américains et des forces coloniales. Et c'est ça qui me paraît important.
Tout à fait. Emma Dedine Hamrouni, vous aurez le dernier mot. En une minute, je vous prie, est-ce que vous voulez conclure, je vous prie.
Oui, c'est très intéressant, la coopération entre l'Iran et les pays africains, entre l'Iran et le Mali. Les discussions que monsieur le ministre des Affaires étrangères iranien a eues à Bamako, et c'était des discussions très intéressantes, surtout sur le développement économique, parce que dans sa délégation, il y avait beaucoup d'hommes d'affaires. Et deuxièmement, le transfert de la technologie. Il y a un centre de technologie en Kenya, iranien, donc ça sera bien d'avoir le même centre à Bamako. Donc il faut que le modèle iranien, le modèle islamique iranien se transfère aux pays africains et surtout dans les pays musulmans africains. Donc cette coopération africo-iranienne, cette coopération entre pays musulmans, entre l'Afrique et les pays d'Asie musulmane, il faut qu'elle passe par l'Iran. Et donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est que les Africains, ils attendent une vraie coopération iranienne technologique, transfert technologique, sécuritaire, économique, mais aussi culturel sur le mode politique iranien. C'est-à-dire il faut que les Iraniens pensent à mettre en valeur leur modèle politique.
Emma Dedine Hamrouni, expert des questions internationales depuis Paris, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Maître Chami depuis l'Alsace d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Construction des observatoires où étaient conservés toutes sortes d'instruments, de livres et de matériel d'astronomie était rendue possible par une coopération assidue entre astronomes, fabricants d'outillages, ingénieurs et architectes. Il va sans dire que les astronomes musulmans ont fabriqué des instruments plus précis et fait des observations plus précises que les anciens astronomes grecs. D'ailleurs, l'observatoire de Samarrande est le plus célèbre du monde islamique qui a été construit sur l'ordre de l'Orbeik, le gouverneur de Samarrande, et avec la coopération du Riyaseddin Jamshid Kochani. Dans dans les temps anciens, le ciel et les étoiles étaient utilisés pour justifier les événements terrestres et les gens de cette époque croyaient que le corps céleste avait un lien direct avec les événements terrestres, les horoscopes. Les peuples d'Égypte et de Mésopotamie utilisaient l'astrologie pour diverses raisons, à savoir l'impact direct des saisons sur l'agriculture, la prédiction de divers phénomènes ou encore le calendrier et la chronologie. À l'ère de la civilisation islamique, l'astrologie jouissait d'une position importante en plus des applications précédentes. Elle était utilisée pour déterminer la position de la Qibla et également pour déterminer les heures de prière. À l'époque islamique, différentes définitions et classifications ont été exprimées pour décrire le domaine de l'astronomie, et l'astronomie a été divisée en différentes branches. L'astrologie de cette période comprenait deux domaines de base. L'astrologie populaire, qui prétend pouvoir prédire ce qui va arriver aux gens dans le futur, et l'astrologie savante, basée sur les questions scientifiques de l'astronomie, qui comprenait des branches telles que les dimensions et les corps célestes, les calculs et calendaires, la chronologie, l'astronomie sphérique et la construction d'instruments astronomiques. En général, l'astronomie de la période islamique était basée sur les trois traditions astronomiques de l'Iran, de l'Inde et de la Grèce. Les musulmans se sont d'abord familiarisés avec la tradition astronomique iranienne. Un peu plus tard, en étudiant les travaux de l'astronomie indienne, ils ont bénéficié de cette tradition astronomique, mais l'influence de la tradition grecque était bien plus importante que les deux autres. Ghiyasuddin Jamshid Kochani, né en 1380 après Jésus-Christ, est un mathématicien iranien exceptionnel, un astrologue connu sous le nom d'Al-Kashi en Occident. Durant sa courte vie, il a inventé un instrument d'observation précis, a écrit divers livres sur les mathématiques et l'astronomie. Bien que Ghiyasuddin Jamshid Kochani fût un physicien, son principal intérêt était les mathématiques et l'astronomie. Il a réussi à occuper un poste permanent à la cour de Lord Beg, le gouverneur de Samarkand. De même, il a corrigé et accompli les anciennes méthodes d'effectuer les quatre principales opérations arithmétiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, et a inventé de nouvelles méthodes plus simples. En fait, Kochani doit être considéré comme l'inventeur des méthodes actuelles de réalisation des quatre principales opérations arithmétiques, en particulier la multiplication et la division. Son précieux ouvrage « Miftah el-Hisab, clé de l'arithmétique en français » est un manuel d'introduction aux mathématiques et il est considéré comme le meilleur de tous les ouvrages mathématiques de son époque en raison de variété de sujets évoqués. La plupart de ce que l'on sait de sa vie a été obtenu en examinant ses précieux travaux scientifiques et les lettres qu'il a écrites à son père aux habitants de la ville de Kochan au centre de l'Iran. Son enfance et sa jeunesse ont coïncidé avec l'invasion brutale de Timur, roi des Timurides, contre l'Iran. Malgré cela, Jamshid n'a cessé de continuer ses études dans cette situation compliquée. Son père, Masoud, était médecin, mais il a également bénéficié d'autres sciences. D'après l'une des lettres de Kochani à son père, on sait que son père avait l'intention de rédiger un essai sur l'un des livres de Roger Nasiruddin Toussi et de l'envoyer à son fils, Jamshid. La première activité scientifique d'Al-Kashani, dont nous connaissons la date exacte, a été l'observation de l'éclipse le 2 juin 1406 après Jésus-Christ, survenue à Kochan. Ghiyasuddin a écrit son premier ouvrage scientifique dans cette ville en mars 1407, 2 ans après la mort du roi Timur, fondateur de la dynastie timurite. Après cela, il a composé un court traité en farsi sur la cosmologie, puis a fourni son important livre d'astronomie Zichrorani en farsi. Koshani, accompagné de son homologue Moïneddin Koshani, s'est probablement rendu en 1432 après Jésus-Christ à Samarkand, où il a joué le rôle principal dans l'édification de l'observatoire de Samarkand. Dès le début, il a été chargé de diriger l'observatoire et est resté à ce poste jusqu'à la fin de sa vie relativement courte. L'instrument de pointe utilisé dans l'observatoire de Samarkand était l'un des exemples les plus remarquables de son époque et même des années plus tard. Par exemple, la tour principale de l'observatoire a été construite avec un diamètre d'environ 46 mètres et c'était le plus grand outil de mesure astronomique de l'Antiquité et même jusqu'à la construction de radiotélescopes de l'époque actuelle. Koshani a finalement été tué le 22 juin 1429 après Jésus-Christ à l'observatoire. D'aucuns disent, comme Koshani ne suivait guère les us et le coutume de la cour comme il devait, Olorbeg a ordonné de le tuer. Selon un autre récit, les gens autour d'Olorbeg ont porté des accusations contre lui, d'une manière que cette question a provoqué la colère de l'émir de Samarkand et que le sultan a également émis l'ordre de le tuer. Parmi les acquis les plus importants de Riyasuddin Jamshid Koshani, on peut citer les suivantes. Inventer et promouvoir les fractions décimales par rapport aux fractions sexagésimales courantes en astronomie. Calcul du sinus d'un angle d'un degré avec une méthode innovante de résolution d'une équation du troisième degré où les 17 chiffres décimaux du nombre obtenu sont cohérents avec la valeur calculée aujourd'hui. Compléter et corriger les anciennes méthodes de réalisation des quatre opérations principales arithmétiques, inventer la méthode actuelle pour trouver une racine énième d'un nombre, la méthode de Koshani est fondamentalement la même méthode qui a été de nouveau inventée des centaines d'années plus tard par le mathématicien italien Paolo Ruffini et le mathématicien anglais William George Horner. L'invention de la méthode actuelle pour trouver la racine carrée, qui est essentiellement une méthode simplifiée pour trouver une racine énième. Jamshid Koshani a inventé d'importants outils astronomiques, dont l'un est connu sous le nom de coup de Jamshid. Cet outil est destiné à déterminer la position relative de la Lune, du Soleil et des planètes en l'utilisant des événements tels que les éclipses lunaires et les éclipses solaires pourraient être déterminés. Al-Koshani est l'inventeur d'une sorte de calculateur analogique permettant de faire des interpolations linéaires, opérations très courantes en astronomie. Dans Miftah el-Hesab, clé de l'arithmétique en français, terminée en 1427, Koshani utilise l'arithmétique pour résoudre des problèmes relevant de divers domaines tels que l'astronomie, la finance ou l'architecture. Le chercheur allemand Paul Lücke dit à propos de Koshani: après avoir recherché certains des travaux de Koshani, dont la plupart sont heureusement disponibles dans les bibliothèques orientales occidentales, j'ai découvert qu'il était un mathématicien intelligent, un inventeur, un grand critique. Koshani était au courant des travaux des mathématiciens avant lui et était très compétent et maîtrisé dans la technique de calcul.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure, sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.